phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
That boy you call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You fellow with your fellows get cleaned at the cello. I'm doing my thing, you're jealous like
a fellow. Bonsoir.
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 Il est 19h passé de 5 minutes. C'est l'heure du Canu Info. Nous sommes le mercredi 4 novembre 2015. Et qu'est-ce qu'il y a ce soir dans ce Canu Info?
Et ce soir, après les élections turques, inculpation de journalistes et meurtre de militants du PKK.
Ensuite, on parlera d'une grève qui a lieu chez les agents d'EDF.
Les CRS, ceux qui se présentent sur des listes FN.
Les homos qui vont pouvoir donner leur sang, mais sous conditions.
21 ans après le génocide au Rwanda, l'association Survie porte plainte contre les dirigeants français pour complicité.
Les volets à étalage qui sont en baisse, mais pas à la caisse.
On aura des enregistrements de prises de parole qui ont été faites lors de la marche pour la dignité et contre le racisme. C'était dimanche dernier à Paris.
Ensuite, on aura des évasions en pagaille.
COP 21, le gouvernement va rétablir le contrôle à ses frontières.
Ensuite, on reviendra sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui serait cohérente avec les objectifs de la COP 21.
Et puis, ça sera l'heure de notre rubrique « Il faut que ça se sache ».
Et on finira ce Canu Info par un agenda.
On commence ce Canu Info en Turquie, donc, après la réélection de l'AKP du fameux Erdogan. Eh bien, le mandat n'a pas traîné à prendre une tournure qu'on pouvait complètement prévoir, puisque le rédacteur en chef de, désolé pour tout le monde, Ceveri Güven, c'est le nom d'un journal, et son directeur de publication Murat Japan ont été inculpés et écroués pour tentative de coup d'État. Voilà, alors ça c'est un journaliste de Nocta qui a précisé ça à l'AFP. Ces deux journalistes avaient été arrêtés lundi par la police à Istanbul après que le dernier numéro du magazine avait présenté en une le triomphe du Parti de la Justice et du Développement, le fameux AKP, comme le début de la guerre civile en Turquie. Le succès de la TAPE, qui a retrouvé du coup au Parlement la majorité absolue qu'il avait perdue il y a 5 mois, a alimenté les craintes des rivaux du chef de l'État, qui redoute qu'il n'en profite pour renforcer son pouvoir sur le pays. C'est ça qu'il voulait dire en fait. La semaine dernière, la police avait pris de force, rappelez-vous, le contrôle de deux chaînes de télévision de la holding Koza IPEC, qui sont proches de l'opposition, en application d'une soi-disant décision de mise sous tutelle judiciaire. Depuis, 58 journalistes de ce groupe ont été licenciés. Alors, il y a les journalistes qui, toujours en chie en Turquie, ont du mal à faire leur travail, voire finissent en prison. Et il y a aussi, bien sûr, le PKK. Et hier, mardi, 2 jours après ce triomphe électoral, il y a 2 jeunes militants du Parti des travailleurs du Kurdistan qui sont morts dans la province de Hakkari. Ça, c'est à côté de la frontière irakienne, là où ça chauffe quand même souvent. lors d'une opération de la police pour démanteler des barricades. Un autre jeune de 22 ans a été tué dans la ville de Silvan, toujours dans le sud-est, dont trois quartiers ont été soumis depuis l'aube, après, à un strict couvre-feu. Ça, c'est le gouverneur de la province de Diyarbakir qui en a informé les médias. L'état-major de l'armée turque a annoncé mardi avoir bombardé la veille des positions du PKK en Turquie et dans le nord de l'Irak. Là-dessus, on peut dire que Erdogan tient ses promesses puisque pendant toute sa campagne, il a affirmé une ligne très très ferme contre le PKK. Les combats meurtriers entre le PKK et l'armée turque et les forces de sécurité ont repris fin juillet, du coup, depuis... fin juillet, et ont fait de nombreuses victimes. Ils ont fait voler en éclats ce fragile processus de paix qui avait été initié et engagé à l'automne 2012. Et on rappelle que depuis 1984, il aurait fait au moins 40 000 morts.
Ensuite, alors les agents d'EDF du barrage hydraulique de Cusset à Villeurbanne se sont mis au grève depuis ce mardi à 17h. Cette grève est en réaction à une mise en demeure de la Commission européenne qui date du 22 octobre dernier et qui impose à la France de mettre en concurrence les concessions des barrages hydrauliques qui sont pour l'instant gérés pour leur quasi-totalité par EDF. Je crois que c'est 80 ou 90%, un truc comme ça. Les agents craignent à juste titre que si la France suit cette décision de la Commission européenne, des emplois soient supprimés et que de la même manière que l'on a vu pour la privatisation de l'eau, les factures risquent d'augmenter. Alors un peu partout en France, les agents EDF se trouvant sur les sites hydrauliques se sont joints au mouvement, soit par la grève, soit par divers rassemblements. On leur souhaite bon courage.
Et maintenant, on va faire une revue d'effectifs des CRS qui se présentent sous l'étiquette Front National. Revue d'effectifs que nous avons trouvé sur le site Paris Lutte Info, dont nous remercions leur travail, site participatif, un peu le rébellion parisien. Alors, on va commencer par Jean-Louis Chabaillet, qui est un quinquagénaire qui s'est présenté aux élections municipales l'an dernier déjà, en tant que tête de liste dans le 20e arrondissement parisien, sous l'étiquette Bleu Marine. Ce candidat est surtout connu pour être commandant d'une compagnie républicaine de sécurité d'Île-de-France. Le voilà de nouveau candidat, mais cette fois-ci pour les élections régionales de décembre. Cet amoureux de la matraque est quand même ennemi juré de ceux qu'il appelle les loustiques antifa, est en cinquième position sur la liste parisienne. Cette proximité CRS-FN, c'est sûr, c'est pas vraiment une surprise, vous allez me dire, mais quand même, on trouve intéressant de le rappeler quand même, car ça se limite bien entendu pas à la région parisienne. Lors des municipales 2014, le FN avait présenté Laurent Guay comme candidat à Marmande, en Lot-et-Garonne, qui est lui aussi CRS. Plus récemment, lors d'élections municipales à Vénissieux, tout près de nous, en mars de cette année, celle de 2014 avait été invalidée, c'est Damien Monchaud qui se portait candidat pour le FN. Son portrait, 30 ans, étudiant en droit à Lyon 3, président du FNJ du Rhône et policier chez les CRS. Un CV qui fait rêver. Pas étonnant d'apprendre ainsi que le vice-prés du FN, Louis Alliot, aurait même fait une visite privée à ses copains CRS à la caserne de Perpignan entre deux tours d'élection. C'est vraiment la grande tripaille. Parfois, ça grince un peu quand même chez les frontistes CRS qui sont soucieux de respecter la ligne politique historique et puriste du parti. Notamment la nomination d'Olivier Bettati, qui est un ancien proche d'Estrosi, connu pour être franchement de gauche, et du coup qui était tête de liste des Alpes-Maritimes pour les régionales, ne plaît pas du tout à son concurrent, on va dire, Georges Confusi, cet ancien secrétaire national du syndicat Alliance pour les CRS et cofondateur de l'association des retraités des CRS, ça c'est sa caution sociale gauche je pense. Et il est par ailleurs aussi candidat aux dernières municipales sur la liste FN à Nice, ville de gauche, dit ne pas comprendre pourquoi aller chercher Bettati ou des gens qui retournent leur veste alors que nous avons plein de personnes de valeur au FN. Mais surtout, il a exprimé son désarroi du coup face à l'éviction de Jean-Marie Le Pen qui, je cite, « n'a jamais dérogé à ses convictions idéologiques ». Rappelons quand même, parce que moi ça m'a surpris quand on me l'a appris, que les CRS étaient à leur création en 1944 un bastion de résistants communistes qui voyaient une logique d'entrisme dans les brigades, mais qui à force de quelques indisciplines pendant des mouvements sociaux a été peu à peu écrémé. Et là, eh ben, on se rend compte quand même qu'ils sont maintenant composés de la crème de la crème.
Alors, à partir du printemps 2016, les homos pourront donner leur sang. Victoire, pas tout à fait en demi-teinte, parce que Marisol Touraine y a mis quelques restrictions, notamment le fait que les homos ne devront pas avoir eu de relations sexuelles pendant au moins un an. Alors ça, c'est en ce qui concerne le don du sang. Pour le don de plasma, les homos pourront donner leur plasma si ils sont dans une relation stable depuis 4 mois ou s'ils n'ont pas eu de relation sexuelle sur ces 4 mois. L'exclusion des homos pour le don du sang et le don de plasma et de plaquettes, etc., etc., est en vigueur depuis 1983. Ça a été mis en place à cause de l'épidémie du sida et n'a jamais été remis en cause jusqu'à maintenant, bien que des progrès aient été largement faits pour pouvoir détecter le sida sur... si quelqu'un qui donne son sang est atteint du sida, comme les hétéros peuvent être atteints du sida, on le rappelle. En Europe, cinq pays dont l'Espagne, le Portugal, la Pologne et la Lettonie autorisent de la même manière les homos et les hétéros à donner leur sang. La France va rejoindre les 5 autres pays européens à les autoriser avec une période d'abstinence. En gros, c'est tous plus ou moins un an, là. Ils ont vraiment copié le même modèle que les autres. Il s'agit de la République tchèque, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni et la Hongrie.
Il n'y a pas besoin de beaucoup de sang en France, hein.
Non, c'est ça, mais surtout quand même.
Il faut attendre un an pour pas baiser.
ça va être chaud. Et surtout quand même, on voit qu'on arrive derrière, par exemple, des pays comme la Pologne, hein, qui sont pas non plus connus pour être ultra progressistes, ni la Hongrie, par exemple, qui sont pas non plus pas connus comme un pays très progressiste. Touraine promet que ces restrictions ne seront que provisoires et que l'année suivante, suivant ce que donnent les études, les restrictions sauteront. Alors, on rappelle que cet accès de pouvoir donner son sang était une promesse de campagne de Hollande. Voilà, encore une promesse faite en demi-teinte et on verra l'année prochaine pour y croire que les restrictions vont réellement sauter.
Si ça reste après les régionales aussi.
C'est lundi dernier que l'association Survie a déposé plainte contre X auprès du procureur du tribunal de grande instance de Paris pour des faits de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité. Cette plainte vise des responsables politiques et militaires français en poste au début des années 90 pour l'assistance qui a été fournie par la France au régime qui a préparé puis commis le génocide des Rwandais désignés comme Tutsis en 1994. Notamment, soutien qui a eu lieu notamment sous la forme de livraison d'armes et de munitions avant et pendant le génocide. Depuis le génocide, depuis 1994, l'association Survie ainsi que d'autres militants de plein d'autres associations ont fait un long travail d'enquête qui a mis à jour de nombreuses manières dont l'État français, l'armée française, le gouvernement français ont aidé le régime rwandais, celui qui a préparé le génocide, et comment. Le 7 avril 1994, après l'attentat qui a été commis contre le président du Rwanda, Habyarimana, l'ambassade de France de Kigali a hébergé la réunion qui a permis la constitution du gouvernement intérimaire. Le gouvernement intérimaire qui est celui qui a perpétré le génocide. Comment la France a soutenu le génocide par tous ses moyens institutionnels, entre autres à l'ONU, etc. Et comment elle a protégé les génocidaires quand finalement ils ont perdu la guerre. La plainte qui a été déposée lundi porte sur deux aspects. D'une part, sur toute livraison française d'armes et de matériel militaire au régime rwandais pré-génocidaire au début de l'année 94, malgré les massacres que ce régime avait déjà commis, fait qui constitue complicité de crimes contre l'humanité. Et d'autre part, sur toute livraison française d'armes et de matériel au régime rwandais alors qu'il était en train de commettre le génocide, fait qui constitue une complicité de génocide. Donc crimes contre l'humanité et génocide, c'est deux sortes de délits qui sont imprescriptibles. C'est pour ça que là, il y a plus de 20 ans maintenant, mais on peut quand même continuer à porter plainte et à inculper des gens. Par exemple, nous dit Survie, le 9 avril 94, mais bon, c'est un exemple parmi des milliers, hein, des munitions ont été débarquées des premiers avions de l'opération française Amaryllis, qui était une opération qui visait à sortir les expatriés français qui étaient au Rwanda au moment où le génocide commençait. Donc, ces munitions ont été débarquées des avions et remises aux forces armées rwandaises. Alors sans doute pour donner plus de chances à sa plainte d'aboutir, Survie n'essaye pas cette fois de se pencher sur dans quelle mesure la France aurait voulu ou non ce génocide, mais elle se base sur le fait qu'en droit français, un complice, c'est pas forcément quelqu'un qui partage les buts du criminel, c'est juste une personne qui l'aide en sachant à quoi sert son aide. C'est-à-dire précisément l'article 121.6 et 121.7 du Code pénal nous dit que le complice est la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation et la consommation de l'infraction, ou celui qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué l'infraction, ou aura donné des instructions pour la commettre. Le complice est puni théoriquement comme l'auteur de l'infraction. Alors là, ça nous fait un certain nombre de gens qui étaient au gouvernement en 94. Donc on se rappelle, hein, c'est le président François Mitterrand, mais c'était le gouvernement de cohabitation, donc autrement des ministres. Chirac qui était premier ministre, ouais, et après tout un bon petit paquet de ministres de droite. Et puis surtout énormément des gradés de l'armée française qui, du coup, pourraient potentiellement, théoriquement, finir en prison. Alors bon, Mitterrand, lui, ça va être un peu tard, hein, mais la plupart des autres sont a priori encore vivants. Par ailleurs, nous dit Survie, cette année, François Hollande s'est engagé à la transparence sur l'implication de la France au Rwanda à travers une annonce de déclassification de certains documents. Aujourd'hui, de nombreux documents sont en réalité encore sous le sceau du secret. Et l'association précise enfin dans son communiqué de presse qu'elle espère, elle espère fort que cette démarche contribuera aussi à dissuader nos dirigeants de soutenir des régimes criminels, en particulier en Afrique. Alors juste avant qu'on remette le petit, on se rappelle que François Hollande, il y a encore quelques semaines de ça, a complètement soutenu Denis Sassou Nguesso au moment où il a modifié la constitution pour pouvoir se présenter encore une fois à la présidence de la République après 30 ans de pouvoir particulièrement sanglant.
Alors, les vols à l'étalage seraient en baisse par rapport à l'année dernière. Alors ça, quand même, pour si on veut parler un peu chiffres, ça représente tout de même 3,5 milliards d'euros pour les magasins en France. Bon, sachant que les magasins qui sont les principalement touchés sont bien évidemment les grosses chaînes. Alors, une étude menée par Checkpoint System, alors quand même ça vaut le coup de préciser, qui n'est rien d'autre qu'une société qui vend du matériel anti-vol, montre que dans le monde, les vols ont bondi de 15,4%. Bon, comme les types qui ont fait l'enquête, ce sont ceux qui sont les premiers intéressés pour que les magasins achètent leur matos, on doute un peu de leur neutralité pour réaliser l'enquête. Mais si les vols à l'étalage diminuent en France, par contre, les vols commis par les salariés ont fortement augmenté, passant de 16,7% sur les démarques inconnues, alors ça c'est l'espèce de terme un peu policé pour dire les trucs qui ont été volés, en 2013 à 35% tout de même en 2014.
Pas mal. Pas mal, bravo.
Et oui, ces employés de magasins, voyant leur salaire stagner et leurs conditions de travail se détériorer, trouvent dans le vol une maigre compensation pour revaloriser leur maigre salaire. Alors, selon un calcul un peu hasardeux du journal Le Parisien, ces vols en France coûteraient 124 euros à chaque foyer français. Oui, parce qu'ils partent du principe que les magasins qui se font voler impactent le prix des...
Mais le Parisien ne calcule pas du tout combien ça rapporte à chaque foyer français en moyenne.
Ouais, c'est ça. Du coup, pour compenser cette perte, hein, on ne saurait que trop vous recommander à l'aube des fêtes de fin d'année d'aller shipper pour au moins 124 euros dans les grands magasins, histoire de compenser un peu cette compensation dégueulasse que pratiquent les grands magasins sur le prix des denrées.
Voire plus, hein, si
vous voulez. Oui, non, au minimum, quoi, juste pour compenser. Après, si vous voulez aller plus, allez-y, quoi.
Et j'avais envie de diffuser quelques prises de parole de plusieurs membres de l'AMA FED. Donc c'était le samedi 31 octobre à Paris. Il y avait une marche pour la dignité contre le racisme. Donc le collectif de l'AMA FED, c'était 60 femmes qui ont organisé cette marche de visibiliser le racisme en France et notamment les racismes d'État. Et ce sont une dizaine de milliers de personnes qui étaient dans les rues de Barbès à Bastille samedi. Et il y a eu des dizaines de personnalités qui ont parlé à la tribune après la marche sur la place de la Bastille, avec des points de vue différents, mais avec le racisme donc comme ligne de mire. Et pourquoi j'ai eu envie de diffuser ces prises de parole précisément, c'est que certains anarchistes ont boycotté cette marche, voire se sont organisés contre, à coups de textes sur les médias autonomes et sur les murs du parcours de la manif. Et je trouvais ça important qu'on diffuse ces prises de parole, puisqu'on en tous les cas pour le Canu Info de ce mercredi, on n'a pas envie d'être amalgamé avec ces personnes-là qui ont notamment et on n'a pas envie de cautionner leurs propos débiles. Et allez-y, jugez par vous-même si vous trouvez que ces interventions qui vont être diffusées maintenant sont racistes. En tout cas,
alors on a bien compris, hein, que les propos débiles dont tu parles, c'est les propos débiles des gens qui sont allés coller des affiches contre la marche sur le trajet de la marche.
C'est ça. Et notamment un des propos, c'était de dire que cette marche, elle était raciste. Je vais pas rentrer dans les détails là parce qu'on va pas se faire un débat maintenant.
Mais il y en a partout sur Internet.
Voilà, il y en a partout. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de diffuser la parole des premières concernées et juger par vous-même. Voilà, bonne écoute.
Depuis un certain nombre d'années, depuis toujours en fait, elles sont au cœur et à la pointe des luttes contre le racisme d'État et les violences policières. Elles mènent le combat depuis de nombreuses années et malheureusement, on les assigne encore à un rôle précis. Le pouvoir blanc, n'ayons pas peur des mots, les assigne à un rôle précis. On les veut soumises, on les veut obéissantes. On les veut violentés par leur mari, leur père, leur frère, tout ce que vous voulez. On les veut objets sexuels. On les veut objets tout court. Les femmes que vous voyez aujourd'hui disent non. Disent, elles sont actives. Elles sont insoumises. Elles sont insolentes, impertinentes, solitaires. Elles respectent leurs frères. Et jamais, au grand jamais, elles ne se désolidariseront d'eux. La lutte de nos frères, la lutte contre les violences policières, la lutte contre le racisme d'État, c'est notre lutte à nous aussi. Et à tous ceux qui voudraient nous assigner autre part, à toutes les injonctions, nous disons « le nègre t'emmerde ». L'arabe t'emmerde. Le musulman t'emmerde. Le rom t'emmerde. Le noir t'emmerde. Les quartiers populaires t'emmerdent. La France que nous sommes t'emmerde. Merci à tous du Brunis pour les femmes.
Chez nous,
la fondatrice du collectif Urgence pour police assassine et l'initiatrice de cette marche.
Ça me fait chaud au cœur que les quartiers se bougent, que les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, les voilés, les noirs, les arabes, les mutilés, les sans-papiers sont là, sont avec nous et nous soutiennent. Les violences policières, il faut que ça s'arrête. Il faut que ces policiers soient condamnés. Il faut que ces policiers, quand ils commettent des crimes et des violences policières, soient condamnés. Et aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas. Donc moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est quand vous voyez une interpellation, filmez, restez là, soyez courageux et ne vous laissez plus faire. À force de déni de justice, à force d'injustice, à force d'impunité, ils continuent à nous tuer à petit feu. Donc aujourd'hui, battons-nous et urgence, notre police assassine. Merci. Et elle va prendre la parole tout de suite. Merci du bruit pour Nassira.
Bonsoir. Vous êtes une foule impressionnante et vous le serez d'autant plus que vous resterez indépendant et que jamais vous ne serez approprié par personne. Ce soir, Jamila Bouhered est à nos côtés. Elle soutient cette marche en pensée. Elle ne pouvait pas être là. Applaudissez-la, même pour ceux qui ne la connaissent pas. Nous avons déclaré notre indépendance aujourd'hui. Nous continuerons à l'affirmer jour après jour contre toutes les attaques, contre toutes les infamies, contre tous les meurtres qui continueront malheureusement à intervenir. Nous ne lâcherons rien et nous savons maintenant que toutes celles et ceux qui ne luttent pas contre le racisme en sont complices. Nous ne sommes plus complices du racisme. Nous avons décidé de le combattre inexorablement, définitivement. Pour qu'il arrête de détruire nos vies et de nous empêcher d'exister. Ce monde commun, nous allons le forger ensemble et nous allons le forger parce que nous sommes conscients de notre dignité, parce que nous sommes conscients de notre pouvoir, de notre puissance d'agir et que plus rien ne peut l'arrêter. La suite est pour vous.
Tout droit de Lyon, qui a été notre référente lyonnaise, qui a mobilisé tous les quartiers de Lyon. On peut l'applaudir, elle est militante, elle prend la parole tout de suite.
Bonsoir, salam alaikum. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu de nous avoir donné la force à toutes d'organiser et de nous réunir et de crier ensemble notre mot d'ordre, dignité. Nous sommes venus ici de tous les quartiers de France. Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel magistral d'Amel Bentounsi. Peu importe la ville, peu importe le quartier, pour nous, les violences institutionnelles et les violences policières sont les mêmes. La hagra est la même. Le racisme est le même. Le mépris de classe est le même. La misère est la même. Alors nous, héritiers de l'immigration coloniale, puisons dans notre histoire trop souvent silenciée toute la force pour pouvoir aujourd'hui lutter et nous réunir.
Je vous avoue que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu emmener avec moi mes sœurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans des mouvements militantes. Elles sont là devant et c'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que nous, les femmes voilées, nous sommes en première ligne aujourd'hui du racisme d'État. La France, elle brandit un islamo-fantasme pour mieux cacher ses problèmes. Elle est là à nous montrer du doigt comme si nous étions l'incarnation de tous les maux français. Mais pourtant, on est là, on s'organise et on résiste. Alors, une grosse pensée pour toutes les sœurs voilées qui sont venues ici. Qu'on invisibilise trop souvent dans les manifs anti-racisme alors que l'islamophobie, on se la prend de plein fait, que c'est nous qui subissons les agressions verbales, physiques, les regards. C'est nous qui sommes précarisés économiquement, socialement. On nous refuse l'accès au travail, à l'école, on ne peut plus accompagner nos enfants, on ne peut même plus avoir de loisirs. Mais aujourd'hui, on est là, on s'organisera et on abrogera ces lois islamophobes. Merci à vous d'être là et merci pour tout.
On vous rappelle qu'au MAFED, on est des femmes racisées, on est des féministes et on est des révolutionnaires, tout ça en même temps, c'est ça le MAFED. On l'a rappelé tout à l'heure, mais je pense qu'il est important de le répéter. Aujourd'hui, on n'a pas marché pour la dignité, on a marché avec dignité. On est venu rappeler à Paris, on est venu rappeler à la France entière que la dignité, c'est-à-dire l'humanité, ne nous a jamais quittés.
Française, afro-descendante, queer, musulmane, victime de violences sexuelles et physiques, mais survivante, et je fais partie du collectif afro-féministe et intersectionnel, Moissy. Merci à toutes et à tous de vous être joints et jointes à nous dans cette marche de la dignité. Notre définition de la dignité à nous, femmes et non-binaires, noires, africaines et afro-descendantes, est simple. Pas de compromis. Nous ne manquons pas de raisons de marcher ici aujourd'hui et tous les jours d'ailleurs. Nos luttes sont intersectionnelles, nos luttes sont multiples, mais nous n'avons pas peur de nous y impliquer. Nos luttes sont multiples et inextricablement indéménables les unes des autres. Ensemble, nous clamons notre dignité. Face aux violences d'État, nos colères sont plus que légitimes. Cette colère, héréditaire pour bon nombre d'entre nous, nous souhaitons y mettre fin. Nous y mettrons fin, non pas en nous taisant, mais au contraire en la transformant en action. N'ayons pas peur des mots, il s'agit du racisme, de l'islamophobie, du sexisme, du validisme, de la transphobie, de la lesbophobie. Nous subissons également très lourdement les violences de classe. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des résistantes. Nous résistons au néocolonialisme et au système hétéro-blanc-triarcal.
Et ben après ce petit reportage qui met bien la patate tout de même, On va revenir sur toute une série d'évasions là qu'il y a eu ces derniers temps. À Grenoble, tout d'abord, un détenu de 20 ans qui était incarcéré à la maison d'arrêt d'Eton, qui s'est évadé ce mercredi dans le milieu de la journée. Alors, il était amené au tribunal pour être jugé pour conduite sans permis. Et comme au moment où au tribunal de Grenoble se déroule le procès, vous avez dû certainement entendre parler du double meurtre qui s'était déroulé à Échirolles, tout plein de mesures particulières ont été prises pour que ce procès puisse se dérouler dans de bonnes conditions pour la justice. Avec notamment ce changement où d'habitude tous les détenus sont conduits dans le tribunal en voiture, sont ensuite amenés dans une pièce avec leur escorte, puis amenés en salle d'audience. Sauf que là, eh ben, cette salle est réservée uniquement aux inculpés d'Échirolles. Les autres escortes, donc, se garent dehors et accompagnent à pied le détenu. Donc, grâce à ça, le détenu, ce détenu de 20 ans dont je parlais au début, a réussi à se faire la belle tout simplement en se barrant en courant, menottes au poignet, et n'a pas pu être rattrapé. Ensuite, on va aller vers Amiens, où trois co-détenus de la maison d'arrêt d'Amiens se sont fait la belle dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit exactement. Ils ont commencé par scier leurs barreaux, puis se sont servis de draps comme cordes pour descendre le premier mur. Ils se sont ensuite servis du grillage anti-évasion anti-aérienne. Vous savez, c'est un espèce de grillage qui est au-dessus de toutes les prisons pour éviter qu'un hélicoptère puisse venir chercher les détenus. Donc ils se sont servis de ce grillage pour rejoindre le toit de l'atelier de la prison, puis ont franchi le mur d'enceinte grâce à un complice qui leur a lancé une corde depuis le jardin d'une voisine, qui raconte, interrogé par les journalistes, avoir déjà connu une telle évasion dans des conditions similaires il y a 20 ans.
Ouais, c'est bien à l'ancienne, j'allais
dire.
Ouais,
c'est exactement.
Scier les barreaux, pendre les draps aux fenêtres.
On dirait les Dalton.
Exactement. Les surveillants se sont rendus compte de leur évasion 2 heures après, mais les 3 évadés n'ont toujours pas été retrouvés. Et ensuite, on va aller dans le Vaucluse, où un détenu de la prison du Pontet s'est fait la belle suite à une erreur de l'administration pénitentiaire. Et oui, les matons se sont plantés et l'ont fait sortir lui à la place de son homonyme. C'est donc par la grande porte qu'il a rejoint la liberté. Et ben voilà, on leur souhaite à tous bon vent et on espère qu'ils ne seront pas rattrapés de sitôt.
C'est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Une gueule impeccable, il adore les animaux. D'ailleurs il a un chien d'1m40 de haut qui monte ses belles dents au père et au clodo. Chevalier de l'ordre, des bouffes et du loto. Pour montrer qu'il assure, il achète le Figaro. Mais il préfère Minute ou National Combat. Ça l'inspire dans les chiottes et y'a moins de mots qu'il comprend pas. Dans la plupart des nombreux PMU du centre-ville, il y en a même dans les stades et les commissariats qui ont peur que leurs enfants ressemblent aux gens comme toi et moi. La neutralisation du drapeau, c'est comme si elle était une usine. L'important, c'est de casser la machine qui les a pas. Comme un soldat avec des lacets blancs et un drapeau sur le bras, qui parle de ses chefs comme s'il parlait de sa mère. Son principal problème, c'est de vivre sur terre. Mais ce n'est pas une victime, il n'est pas né comme ça. Il n'est pas forcément moins intelligent que toi. Ce que t'as à savoir, c'est qu'il est dangereux, que lorsqu'il te regarde, il a aussi peur que toi. La neutralisation du drapeau, c'est comme cette usine. L'important, c'est de casser la machine qui les a pas.
nous rajeunit pas, dites donc. Pour les plus vieux d'entre nous, vous aurez reconnu Désert Culturel, le morceau des 100 et des 1000.
Donc là, je vais parler de la COP21 où le gouvernement va établir le contrôle à ses frontières pendant. Donc c'est d'après les dernières infos, la France va introduire des contrôles aux frontières à partir du 13 novembre jusqu'au 13 décembre, soit un mois complet où les douaniers et les flics en tout genre pourront contrôler qui ils veulent à la descente d'un avion, dans les gares ou encore aux frontières terrestres avec nos voisins européens. Alors on le sait très bien qu'ils se dérangent pas pour le faire, mais là c'est une décision légale, on va dire. Et de mémoire, jamais la France n'avait levé les accords de Schengen sur une période aussi longue. Donc pour info, la COP21, c'est du 28 novembre au 12 décembre, 195 chefs d'État et un nombre incalculable d'industriels qui se réuniront pour décider de mesures inutiles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, il s'agira de statuer sur la quantité de pollution dite raisonnable que les industriels pourront rejeter dans l'atmosphère. Donc les nouveaux quotas de CO2 ne sont qu'un nouveau moyen pour les pays riches de continuer à s'octroyer le droit de polluer impunément et de continuer leur impérialisme à coup de forêts achetées dans des pays africains notamment. Donc les responsables du réchauffement climatique et de la marchandisation du vivant vont tenir leur énième mascarade.
Alors tout ça pour un sommet que le gouvernement a effectivement l'air de prendre hyper au sérieux. Puisque
le monde entier.
Oui, mais alors là, plus spécifiquement pour aujourd'hui, Manuel Valls, encore et toujours lui, puisqu'il a déclaré aujourd'hui que il a déclaré devant l'Assemblée nationale, la poursuite des travaux à Notre-Dame-des-Landes servirait à être cohérent avec le rendez-vous de la COP21. Et oui, c'est bien de ça qu'on parle.
La politique, c'est un art de parler.
Donc la semaine dernière, le préfet de là-bas, de ce département
obscur de l'Ouest là.
Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, merci. Ce préfet avait annoncé la reprise des travaux sur le site. De nombreux opposants s'étaient insurgés du calendrier, puisque c'était justement quelques jours avant le sommet international contre le réchauffement climatique. Ce projet est important pour l'environnement, c'est donc ce qu'a dit aujourd'hui Manuel Valls. L'actuel aéroport, donc Nantes-Atlantique, est au contact de trois zones Natura 2000. Il n'est donc pas souhaitable de l'étendre. Si on veut être cohérent avec le rendez-vous de la COP21, alors il faut poursuivre les travaux. Le Premier ministre a estimé le nouvel aéroport important pour l'économie du Grand Ouest. Il est important que les 42 000 personnes qui sont survolées par les avions décollant ou atterrissant, à Nantes Atlantique. Alors on sait qu'il a été dit, montré, prouvé que l'aéroport qui existe suffit très très largement, qu'il n'y a pas plus besoin de l'agrandir que de le remplacer. On sait aussi, en tout cas si on veut le savoir, que les déplacements et les modes de déplacement sont des choix et que les gouvernements ont quand même un petit peu la possibilité de peser sur ces choix. Et on sait aussi que l'avion est le mode de déplacement le plus polluant de tous les modes de déplacement qui existent actuellement dans les technologies qu'on connaît quoi en ce début du 21e siècle.
Malgré les fraudes de Volkswagen quoi.
Hein?
Même malgré les fraudes de Volkswagen.
Malgré les fraudes de Volkswagen, eh bien, les avions, même sans fraude, sont encore bien plus polluants. Alors voilà. Alors, on peut décider, un gouvernement peut décider de soutenir, par exemple, le choix de se déplacer beaucoup en avion, de faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus utilisés, ou décider de faire en sorte de le compliquer un peu, de le restreindre, de faire des mesures pour aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, lequel de ces deux choix est cohérent avec le rendez-vous de la COP21? Eh ben, si on pense que Valls a donné la réponse débile parce qu'il est trop con, eh ben, peut-être qu'on se trompe. Parce que vraisemblablement, Valls, qui n'en est pas à un mensonge près, en fait pense plutôt que c'est nous qui sommes trop cons.
Écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Le sans-papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser. Et on commence, faut que ça se sache, à Paris, où un collectif de migrants et migrantes, enfin surtout de migrants, hein, comme souvent, demande l'enregistrement des demandes d'asile pour tout le monde, en gros. Après l'évacuation du lycée Jean Carré, c'est-à-dire c'est encore un grand lycée ou collège squatté dans l'Est parisien par plusieurs centaines de migrants qui arrivent toujours dans le 19e et le 20e, là. Du coup, cette évacuation a eu lieu, cette expulsion a eu lieu le 23 octobre 2015. Les migrants qui occupaient le lieu ont été dispersés. Certains sont encore à la rue, dans des campements, notamment Place de la République, parce qu'ils n'ont pas été hébergés le jour de l'évacuation ou parce qu'ils l'ont été dans des centres à plusieurs centaines de kilomètres de Paris et qu'ils ont bien entendu voulu revenir près du lieu où ils ont entamé leur demande de la procédure de demande d'asile. Dans le meilleur des cas, ils sont logés dans des centres d'hébergement pour une durée non déterminée, dont le renouvellement est entre autres conditionné aux démarches administratives engagées au regard de l'asile. Aujourd'hui, la priorité des exilés du bâtiment occupé de l'ancien lycée Jean Carré, victime de la défaillance des pouvoirs publics qui ne fournissent pas un accueil décent à tous les demandeurs d'asile, comme aux personnes précaires en général, est celle d'un hébergement stable et convenable pour tous. Mais un autre problème fait son apparition. Beaucoup d'exilés qui sont présents au lycée occupé ou hébergés dans les centres d'hébergement sont placés par l'administration sous procédure dite Dublin 3. On en a déjà parlé ici, c'est le mécanisme qui est basé sur le principe qu'une demande d'asile doit être examinée dans le premier pays européen dans lequel la personne est arrivée. Les systèmes de fichage et de contrôle étant de plus en plus performants, malheureusement, la France essaye de, alors là c'est un nouveau mot de se communiquer, essaye de dubliner, du coup, de nombreuses personnes vers ces pays et les empêche par conséquent de voir leurs demandes instruites en France. Ces exilés sont contraints d'attendre de nombreux mois, même souvent une année, avant de savoir si la France va ou non les renvoyer, en général elle va les renvoyer, vers ce pays, entre guillemets, responsable. Ou s'ils vont être autorisés à demander l'asile en France. Alors en 2013, à Paris, sur 710 décisions Dublin, au final, il y a 7 personnes qui ont été renvoyées. Du coup, ils font vraiment attendre jusqu'à un an pour le plaisir de faire attendre jusqu'à un an et du coup de prendre la décision à l'OFPRA, etc., etc. Du coup, les réfugiés du lycée Jean Carré et les personnes solidaires qui sont soutien et camarades s'exclament dans leur communiqué. Après 20 ans d'application désastreuse de ce mécanisme et au moment où les États de l'Union européenne s'entendent pour relocaliser les exilés arrivés en Italie et en Grèce afin de soulager, entre guillemets, ces premiers pays d'accueil, la France continue à appliquer cette procédure inefficace, inéquitable et injuste à ceux qui sont déjà présents sur son territoire. Dès aujourd'hui, le règlement Dublin, qui a pour conséquence de laisser les personnes dans une situation d'attente interminable, ne doit plus être appliqué. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir déposer leur demande dans le pays de leur choix, à l'intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, donc, les réfugiés demandent un hébergement immédiat et durable de tous les exilés présents au lycée et à la rue, leur assurant un suivi juridique de leur demande d'asile, l'enregistrement immédiat des demandes d'asile et l'annulation des procédures Dublin pour les habitants du lycée et tous les exilés, des papiers pour résider, circuler et travailler librement. Si tous ces mots d'ordre vous parlent et que, par hasard, ce week-end, vous allez à Paris, sachez qu'il y a un rassemblement. Du coup, vendredi 6 novembre, à 14h devant la, enfin, le week-end, à 14h devant la préfecture, rendez-vous au 92 boulevard Ney, métro Porte de Clignancourt.
Ça sage.
Allons faire un tour en Bulgarie où l'ouverture de la chasse a commencé et il est demandé aux chasseurs d'avoir une attention toute particulière pour les migrants. Alors, il leur est demandé de ne pas leur tirer dessus, car la région de Bourgas, c'est plus sérieux, de Bourgas, au sud-est du pays, est un lieu de passage de migrants, car cette région est frontalière avec la Turquie. Les chasseurs devront donc faire preuve de discernement et appuyer sur la gâchette qu'une fois qu'ils sont sûrs de leur coup. Mais le migrant reste tout de même une sorte de gibier à capturer vivant. En effet, dans cette même région, un groupe de chasseurs avait repéré un groupe d'une cinquantaine de migrants qu'ils ont capturés et les ont refilés à la police.
C'est super.
Mais non, c'était pas pour leur filer à bouffer en disant, bah, allez, venez manger un coup, les gars, vous deviez aller pas simple et tout. Les autorités du pays recommandent également aux chasseurs de prévenir la police s'ils repèrent une présence humaine dans les forêts. Alors, on n'est pas à l'abri que les chasseurs s'entre-dénoncent à la police de la même manière que régulièrement ils confondent leurs collègues avec un sanglier.
Il faut que ça se sache.
Et on finit cette rubrique avec le déplaisir de vous parler de Fabrice Légéry, ce bâtard de patron de Frontex dont on a déjà parlé dans cette rubrique, malheureusement encore, qui vient de déclarer au quotidien Bild qu'il dénombrait en 2015 800 000 entrées qu'il appelle illégales, sachant que l'écrasante majorité de ces entrées sont des personnes originaires de Syrie qui sont donc des réfugiés de guerre, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi les laisser crever après tout. Le nouveau point d'entrée le plus utilisé est visiblement via les Balkans et la Méditerranée orientale. Il affirme en outre que l'afflux de migrants n'a pas encore atteint son paroxysme. Eh bien, bienvenue à vous tous et toutes, et bon courage par ici.
Faut que ça sache.
Café Brunch Party numéro 2.
Alors, bien ou quoi l'inauguration du Café Brunch Party?
Ah bah ouais, moi je me suis mise bien. Ouais.
T'es bien bien.
Ouais, ouais.
Bien bouffé, bien bu.
Ouais, bien dansé aussi.
Bien rigolé.
Et il y avait du monde.
Alors, la bouffe c'était
du vegan, du végétarien,
des fruits de saison. Et pour le Café Brunch Party du 6 novembre,
il y aura une expo photo de Biden
et de 15h à 17h un atelier d'écriture.
De 17 à 18, une écoute collective de l'émission de radio On n'est pas des cadeaux, une émission féministe sur Radio Canu, et cette semaine ce sera Hip Hop Cubain.
De 18h à 19h, il y aura les lectures des textes écrits l'après-midi même.
Et à 21h, un quiz musical en équipe.
Ainsi qu'un apéro jusqu'à minuit. Les Cafés Brunch Party, c'est de midi à minuit.
En mixité choisie, meuf, win, trans.
Au local féministe de la Guillotière, 6 bis. Rue de la Victoire.
I love this place, it smells so good. I love this place, it smells so good.
Et sinon, comme agenda, donc ça sera aussi le vendredi 6 novembre, à partir de 19h, à l'atelier des Canuaires 91 rue Montesquieu, un débat autour de Mohamed Amani. Alors, je sais pas si c'est autour ou avec l'auteur, mais en tout cas, son bouquin, il s'appelle « Tunisie, la révolution face à la mondialisation des fondamentalismes contemporains ». Et donc, pour lui, il y en a trois. Primo, le fondamentalisme islamique. Secondo, le fondamentalisme néolibéral, usurpateur et colonialiste. Et tertio, le fondamentalisme d'une gauche nationaliste centraliste. Voilà. Toi, t'avais un autre...
Oui, moi, j'ai, comme d'habitude, comme je viens de le faire, une annonce pas du tout locale, mais quand même, un grand concert de soutien pour Marseille Info Autonome, qui est le nouveau site d'info collaboratif qui vient de naître à Marseille, bien entendu. Bienvenue à vous. Et du coup, c'est le 8 novembre 2015, au Molotov, à partir de 4h30, une présentation du site, à 6h, concert de rap, de punk et de surf. Tout ça à prix libre, maximum de soutien.
Et dimanche 8 novembre à 15h, c'est le goûter dominical et vegan à la Lutine. Donc c'est aussi 91 rue Montesquieu, la porte d'à côté, avec Disreka, anarcho-punk queer acoustique from UK. Et alors Jolie naît de la frustration constante de vivre dans une ville de branleurs mêlée à celle de ne jamais arriver à vraiment jouer de la guitare. un peu comme le punk, me barrer en tournée acoustique, c'est l'excuse parfaite pour taguer les murs de ton bled et lire des hymnes sur ton fauteuil. Donc, participation à prix libre pour payer les frais d'effraiement. Voilà.
Voilà, bien c'est fini pour ce Canu Info. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. D'autres Canu Info demain.